Sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates. Nous allons lire au chapitre 5 à partir du verset 26. Galates, chapitre 5, verset 26, et nous poursuivrons au chapitre 6. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole est une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Chaque fois que nous plongeons nos regards en elle, nous pouvons y découvrir quelle est ta volonté. Et humblement, nous te prions pour que tu nous aides à marcher selon ta volonté. Seigneur, merci parce que tu es pour chacun d'entre nous précieux. Et nous te prions que tu nous aides aussi à t'être agréable en toutes choses. Seigneur, nous avons besoin du secours de ton esprit. Maintenant, pour méditer ta parole, et puis ensuite, Seigneur, tous les jours de notre vie, pour marcher selon ton conseil. Accorde-nous, Seigneur, ton secours. Nous comptons sur toi et nous te disons merci ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin vous parler très simplement de ce que l'on pourrait appeler le secours et le support mutuel. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de vivre d'une manière constante et permanente dans une communion réelle sous le regard du Seigneur en comptant sur sa grâce pour ne pas sombrer dans les tentations que le malin peut placer sur notre route. Mais la grâce du Seigneur est suffisante pour nous maintenir debout et nous permettre de marcher en vainqueur jusqu'à son retour ou jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Cependant, en lisant un texte comme celui que nous avons sous nos yeux ce matin, nous devons faire une constatation, c'est que le péché est une réalité de la vie chrétienne, hélas. Cependant, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 8, nous avons cette déclaration de l'apôtre qui dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous ne sommes pas dans la vérité. Il ne s'adresse pas à des incroyants, il s'adresse à des chrétiens, et nous prenons ce verset comme étant inspiré par le Saint-Esprit, ce qui veut dire donc que nous pouvons, les uns et les autres, broncher de différentes manières. Jacques lui-même, dans son épître au chapitre 3 et au verset 2, affirme ce que je viens de déclarer, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si le chrétien pouvait ne pas pécher, alors à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir dans la Bible cette exhortation à nous revêtir des armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme en face des ruses et des pièges de l'ennemi et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il n'y aurait aucune raison non plus de prêter attention aux avertissements qui nous mettent en garde contre les tentations, contre les pièges du malin, mais parce que nous sommes quand même encore dans la chair, bien que l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien nous devons veiller d'une manière constante afin de ne pas sombrer justement dans les pièges de l'ennemi. Le péché affecte le croyant lui-même, mais il y a plusieurs conséquences. Conséquences pour sa propre vie. Quand quelqu'un pêche, eh bien, il y a un manque de confiance, tout d'abord, et il perd la joie, et je dirais même la paix, comme tous les autres fruits de l'esprit, et il se sent profondément malheureux. L'autre conséquence du péché, eh bien, c'est que cela réduit et anéantit, je dirais même, l'utilité du croyant dans l'exercice des dons spirituels, parce que un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et le péché a des conséquences dans ce sens-là, dans sa propre vie. Mais le péché aussi, et surtout, affecte Dieu, qui nous aime, qui est notre Rédempteur, notre Créateur, et qui ne désire qu'une seule chose, c'est que nous marchions dans la sainteté, dans la vérité, d'une manière qui lui est agréable, en obéissant à sa parole. L'autre conséquence du péché dans notre vie, c'est que cela peut affecter aussi les autres croyants dans notre entourage. Et certains peuvent, à ce moment-là, être impactés par notre manière de vivre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'en arrive maintenant à ce point qui, pour moi, est important, le support quand quelqu'un se trouve enlacé par les pièges du péché et se trouve donc dans une situation qui est tout simplement une chute morale, une chute spirituelle. La parole de Dieu que nous avons ici sous nos yeux nous dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors, il y a ici quelque chose que je voudrais mettre en relief. Premièrement, quand quelqu'un chute, et le texte que nous avons sous nos yeux met en évidence que la chute a surpris la personne même qui est tombée. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été fait avec préméditation, mais il a succombé à une tentation à laquelle peut-être il croyait pouvoir tenir ferme par sa propre volonté et ayant peut-être exercé, je dirais, une sorte d'orgueil personnel en pensant pouvoir vaincre par lui-même, eh bien, il est tombé dans la tentation, il est tombé dans le péché. La première chose que fait quelqu'un qui tombe, c'est d'essayer le plus vite possible de se mettre sur pied. Cependant, je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé à un âge, et ça m'est arrivé, il n'y a pas bien longtemps, de tomber. Et je vous prie de me croire, c'est difficile pour quelqu'un de mon âge de se relever facilement. J'étais tout à fait au début de notre service ici avec vous pendant cette année. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir. Nous étions tous convoqués en bas pour faire le grand nettoyage du printemps. Et moi, j'étais sur un escabeau qui s'est dérobé sous mes pieds et je me suis retrouvé immédiatement par terre. Et quelle joie pour moi! Je ne dois pas vous dire que la chute a été un sujet de joie, non. Mais quand je me suis retrouvé par terre, j'ai vu 3 ou 4 frères qui se sont précipités, qui m'ont saisi en moins d'une seconde, hop, je me suis retrouvé sur les pieds. Ça veut dire que j'avais besoin de l'aide de quelqu'un dans mon entourage. Eh bien, la parole de Dieu souligne que nous avons besoin de faire exactement cela dans le domaine spirituel. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un pêche, eh bien, et que cela a des conséquences dans sa vie, comme dans son entourage, nous devons être là, prêts à l'aider pour qu'il se relève. C'est une chose importante. Dieu n'admet pas la pratique du péché. Dieu est un Dieu saint. Nous l'avons chanté, nous le croyons. Mais attention, la sainteté ne doit pas être dans le cœur du chrétien l'exercice d'une tartufferie. C'est quelque chose de réel. La sainteté n'a rien à voir avec le pharisaïsme. Le pharisaïsme, c'est quoi? C'est croire que l'on est au-dessus des autres, plus saint que les autres. Et vous savez, il y a une expression dans la Bible qui dit au sujet de certaines personnes, c'est dans l'Ancien Testament, « Je suis saint, ne m'approchez pas ». Finalement, ça, c'est une manifestation d'orgueil qui est vraiment exécrable et que Dieu ne peut pas approuver et à laquelle, eh bien, le Seigneur ne peut pas accorder, je dirais, une approbation, quelle qu'elle soit. La parole de Dieu nous dit que nous devons reprendre avec douceur, parce que nous savons aussi que chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons avoir une certaine fragilité. Alors, je vais essayer de mettre ceci plus clair. Voyez-vous, aider à se relever, c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous, surtout quand nous nous rendons compte que la personne elle-même a été surprise. Elle est elle-même dans, je dirais, la crainte, puis en même temps dans la souffrance, parce qu'elle réalise là où elle se trouve. Et la Bible nous dit, les hommes spirituels, ceux qui sont spirituels à ce moment-là, doivent aider cette personne à se relever. Alors, qui sont les êtres spirituels? J'ai marqué simplement ceci, ceux qui marchent selon l'esprit, ce sont les êtres spirituels. Il faut noter que bien que la maturité soit relative et dépende de la progression et de la croissance de chacun, la spiritualité est une réalité absolue qui peut être le partage de n'importe qui, quel que soit le nombre d'années depuis lequel il marche avec le Seigneur. Il peut y avoir un moment où quelqu'un est un être spirituel, il peut y avoir un autre moment où quelqu'un peut être un être charnel. Voulez-vous un témoignage tiré de la Bible? Eh bien oui. Dans l'Évangile, nous voyons l'apôtre Pierre être confronté au Seigneur Jésus et à un moment donné, alors que Jésus a lui-même posé la question « Qui dit-on que je suis ?» Certains ont répondu d'une manière, d'autres d'une autre manière. Ils ont dit, certains disent que tu es Jérémie, d'autres que tu es un tel autre prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, à ce moment-là, a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et que lui a répondu Jésus ? Tu es heureux, Pierre, parce que c'est l'Esprit qui t'a révélé une telle chose. Et à ce moment-là, on peut dire, Pierre était un être spirituel. Mais, quelque temps plus tard, eh bien, Jésus parle de sa mort, de son sacrifice, de son œuvre qu'il va accomplir, qui est une œuvre remarquable, dont nous sommes tous les bénéficiaires et pour lesquels nous avons tous rendu grâce à Dieu ce matin. Cependant, eh bien, il y a un moment où justement Pierre s'est opposé à cela, involontairement peut-être, mais quand même, il a dit « Ah Seigneur !» Alors que Jésus parlait de sa mort expiatoire, il a dit « Ah non, cela ne t'arrivera pas, c'est pas possible !» Et comment lui a répondu Jésus ? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées charnelles. Vous voyez, il a oscillé tantôt sur les sommets de la vie spirituelle, tantôt, malheureusement, eh bien, dans la vallée de cette manifestation de la chair. Évidemment, je dirais que la maturité, c'est l'accumulation de toutes ces périodes de spiritualité. Mais quand nous nous sentons à un moment donné fort et spirituel et que nous voyons quelqu'un tomber, loin de nous la pensée de nous croire supérieurs, au-dessus, mais soyons prêts à lui tendre une main, à l'aider à se relever, à l'aider à reprendre la voie de l'obéissance à la parole du Seigneur. Évidemment, c'est le Seigneur lui-même qui nous demande d'agir de cette manière-là. Et certains, eh bien, voient d'une manière assez difficile de pratiquer cela, parce que leur orgueil ou leur pharisaïsme, eh bien, les empêche de venir au secours de celui qui est faible ou de celui qui est tombé. C'est la raison pour laquelle il est ici écrit que si quelqu'un pense être quelque chose, parce que celui qui n'aide pas et qui pense être quelque chose, eh bien, il est dit, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et nous devons demander à Dieu la grâce de ne pas être dans un tel état d'esprit, mais d'être plein de miséricorde, de compassion, tout en ayant, eh bien, la vision de la sainteté de Dieu et de la discipline au sein de l'Église. Car nous pensons que même avec cet enseignement qui est contenu dans ce texte, nous ne devons pas oublier qu'il y a des règles précises lorsque quelqu'un vit dans le péché. Et regardez, il y a une différence entre celui qui trébuche, tombe, qui va se relever, ou on va aider à se relever, et il va reprendre la voie de l'obéissance, et celui qui se complaît dans le péché, celui qui reste vraiment dans un état de désobéissance, lui, eh bien, il va faire l'objet de la discipline. Et la parole de Dieu, notamment dans l'évangile de Matthieu, met en relief comment nous devons exercer la discipline. Comme ce n'est pas le sujet de ma méditation ce matin, je n'insisterai pas là-dessus, mais toutefois, je voudrais simplement souligner en passant que dans l'Église doit aussi exister la discipline. Il y en a quelques-uns qui, au moment où nous parlons de discipline, peuvent utiliser certains textes de la parole de Dieu pour, en quelque sorte, empêcher que l'on puisse exercer la discipline. Et c'est même dans l'évangile de Matthieu que l'on trouve cela, parce que certains sortent immédiatement ce verset « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». Alors il y a une différence entre juger une personne et juger le mal par lui-même. Mais même dans ce contexte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 1, nous devons prendre en considération que nous pouvons exercer le secours en essayant d'ôter la paille de l'œil de notre prochain. Mais avant de pouvoir faire cela, il faut que nous soyons profondément humiliés pour que le Seigneur nous aide à triompher et enlever la poutre qui est dans notre œil. La Bible ne dit pas que nous ne devons pas exercer la discipline. La Bible dit d'abord que nous devons confesser notre péché et nous-mêmes être en relation étroite avec Dieu, avoir nous-mêmes été purifié par le Seigneur, et il dit, quand tu as ôté la poutre, alors tu peux ôter la paille de l'œil de ton frère. Certains utilisent aussi Jacques, chapitre 4, versets 11 et 12, où il est dit, ne parlez pas mal du frère, d'un frère. Mais quand dans notre cœur, on a le désir d'aider un frère, alors on ne peut pas parler mal de ce frère. Celui qui parle mal, c'est celui qui est orgueilleux, pharisaïque et cruel. Mais si quelqu'un veut aider, il va éloigner de lui ce désir de parler mal du frère. Nous devons aider pour que la personne puisse rester debout, mais pas seulement qu'elle reste debout, mais nous devons l'aider aussi à s'édifier. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans ce texte ce verset qui a souvent mal été interprété. Il est dit au verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tenons bien compte du contexte. Ça se trouve dans ce contexte où il s'agit d'aider un frère. Et certains ont vu tout simplement au travers de ce verset, une exhortation à soutenir, aider matériellement, par exemple, le serviteur de Dieu, les hommes qui sont dans le service au sein de l'Église, bien sûr que cela doit être fait. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 7, Jésus dit que tout travail mérite salaire. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, et à partir du verset 7, alors voici ce que nous découvrons. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas? N'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Et il est ajouté, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc, j'ai cité ces passages-là parce qu'effectivement, il y a une aide, un secours à apporter dans le domaine matériel à ceux qui travaillent au sein de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Mais le verset ici que j'ai souligné ne parle pas de cela. Le terme qui est utilisé, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, est utilisé dans d'autres passages, notamment on le trouve dans l'épître aux Hébreux, où il est parlé des biens à venir, c'est-à-dire des bonnes choses sur le plan spirituel. Et ce que souligne ici l'apôtre Paul dans cet épître aux Galates, c'est qu'il doit y avoir une mutualité, c'est-à-dire un réconfort qui est réciproque, c'est-à-dire un apporte un enseignement, mais l'autre, il partage aussi des choses qui ne sont pas forcément des biens matériels, mais aussi des bonnes nouvelles. Le terme qui est utilisé peut être aussi traduit, et il l'est dans d'autres passages, par des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Même quand on aide quelqu'un et qui a besoin de notre aide, cette personne peut aussi partager certaines choses qui sont bonnes et avec lesquelles, justement, on peut se faire du bien. Je vais vous dire, je vais utiliser un exemple pour que vous compreniez bien. Vous savez, un serviteur de Dieu, un jour, j'étais d'ailleurs en formation, est venu me parler et me dire combien il avait été surpris dans ces visites qu'il venait de faire. Il avait visité une personne qui était dans les biens matériels, elle n'avait absolument besoin de rien sur le plan matériel ici-bas sur la terre. Et quand il a parlé un moment avec cette personne, celle-ci, au bout d'un moment, a mis sa tête entre les mains et a dit « Vous voyez, pasteur, je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, mais malheureusement, je ne suis pas heureuse. » Et cette personne a éclaté en sanglots et a déversé tout ce qu'il y avait dans son cœur. Et il m'a dit, tu vois, c'est l'aspect négatif. Et puis il dit, je suis allé vers une autre personne qui, elle, était misérable dans tous les domaines. Elle vivait dans une pièce unique, elle avait son lit, misérable lit, sous la pente d'un escalier. Elle était déjà âgée, souffrante, malade, et quand il a frappé à la porte de sa demeure, il l'a fait avec une certaine crainte, parce qu'il se disait, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui accorder et qui va la fortifier, l'encourager? Et il dit, dès que j'ai entendu sa voix entrer, j'ai poussé la porte et je me suis retrouvé en face d'une personne qui s'est assise sur son lit et qui, en me voyant, a dit, ah, pasteur, comme je suis heureuse de vous voir. Écoutez, je suis tellement heureuse avec mon Dieu. Elle avait encore la Bible sur le lit qu'elle lisait. Elle dit, c'est tellement bon d'appartenir au Seigneur. Elle n'avait rien dans le domaine matériel. Et le pasteur, qui était mon formateur, m'a dit, quand je suis reparti de là, eh bien, c'est pas moi qui lui ai fait du bien, c'est elle qui m'a fait du bien. Parce que j'étais encouragé par sa manière d'être, par sa manière de parler, parce qu'elle avait une force qui était capable de l'aider à triompher de tout ce qui était négatif dans sa vie. Vous voyez, c'est ça le partage. C'est-à-dire les témoignages réciproques, la communion, on a besoin de cela. On peut apporter une bénédiction par une parole, mais même celui qui apporte un enseignement, même celui qui vient pour édifier, pour secourir, pour aider l'autre, il a besoin d'un retour, il a besoin d'un témoignage, il a besoin de reprendre aussi quelque chose qui va l'encourager et le fortifier. Et c'est de cela que parle ce verset. Et bien entendu, j'ai quelque chose que nous avons besoin de souligner. Il faut en même temps prendre conscience que quand nous agissons de cette manière-là, nous sommes agréables à Dieu parce que nous servons avec un cœur joyeux. Nous n'attendons pas forcément un retour. Dieu a donné et il a donné sans condition. Et il nous demande aussi d'aider les autres et de secourir de cette manière-là afin que nous puissions voir sa gloire dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle aussi il dit, eh bien, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Cependant, juste avant, il y a un avertissement. Et l'avertissement, le voici, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'aimerais pendant un instant m'arrêter à considérer aussi ce verset de la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible nous demande de prendre soin, de ne pas nous moquer de Dieu. Je sais, je m'adresse à des chrétiens, à des croyants engagés. Je sais que c'est probablement pas le partage de qui que ce soit au milieu de nous. Cependant, il faut quand même que nous soyons bien avertis de ce qu'affirme la parole de Dieu, car dans notre entourage, il ne manque pas de moqueurs. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Et l'avertissement est donné aussi à des chrétiens. Et nous sommes dans un temps, d'ailleurs, quelqu'un l'a utilisé ce matin dans sa prière, et nous le disons souvent, où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. Dans ce monde, nous voyons les valeurs être renversées. La parole de Dieu souligne que lorsque les fondements sont renversés, le juste, que doit-il faire? Et nous pouvons être parfois désemparés. Mais tous les jours, nous sommes confrontés par la voix des médias à cette moquerie, je dirais à ces outrages qui sont lancés à l'encontre de la vérité, à l'encontre de Dieu. J'ai pu découvrir, au travers de certaines littératures, que certains personnages, eh bien, se sont opposés à la sainteté de Dieu, se sont opposés aux lois morales de Dieu. Certains, même soi-disant chrétiens de certaines églises, eh bien, se moquent ouvertement de la loi morale de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il existe des choses qui nous font frémir, parce qu'on se rend compte comment on peut aller loin dans l'immoralité, tout en pensant que finalement, on est en règle avec Dieu. Mais d'autres, eh bien, ouvertement, sont contre Dieu. Permettez-moi de vous citer le témoignage d'Ernest Hemingway. Vous connaissez certainement cet écrivain. Vous savez aussi quelle a été son habitude de se moquer de la moralité et de Dieu, en disant que sa propre vie démontrait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait sans en payer les conséquences. Et quand vous lisez sa littérature, en tous les cas, certains livres qui ont été écrits par cet homme, vous êtes pris de dégoût. Il a une certaine connaissance, mais manifestement, il met en relief qu'il s'oppose à la loi morale de Dieu. Et il a même fait des déclarations comme celle-ci, où il dit que les lois qui sont contenues dans la Bible, eh bien, ne servent tout simplement qu'à empêcher l'être humain de jouir de la vie et d'être véritablement heureux. Il dit, les lois religieuses, ce sont que des superstitions sans aucune valeur. Seulement, nous devons examiner la fin de sa vie. Et nous découvrons ceci, c'est que il a même fait la parodie de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez comment il a écrit ? Il a écrit « Notre nada ». Nada, en espagnol, ça signifie « rien ». Qui est dans le nada. Et c'est une provocation ouverte. Il a, comme cela, manifesté son antagonisme, son désir de lutter contre la vérité. Et il a marché dans l'impureté, dans l'immoralité, et je dirais sa fin, elle est loin de prouver l'impunité de l'infidélité. Parce que il est tombé dans un désespoir tel qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte un jour ou l'autre. Sinclair Lewis, un autre écrivain, un autre personnage connu, a attaqué ouvertement les normes morales divines et fait un pied de nez à Dieu. Vous savez comment il est mort ? Alcoolique, pathétique, dans une clinique de troisième ordre en Italie. Oscar Wilde a fait exactement la même chose. Ils étaient tous les deux au même rang, se sont moqués ouvertement de Dieu. Et il a fini, lui aussi, dans la honte, dans la disgrâce, après avoir été emprisonné comme homosexuel. Vers la fin de sa vie, eh bien, il a écrit « J'ai oublié qu'un jour ou l'autre, ce que vous êtes dans le secret va être crié du haut des toits. » Et cet homme a fini misérablement. Vous voyez, mes frères et sœurs, cela pourrait paraître exagéré, n'avoir aucune relation, aucun rapport avec ce que peut-être nous vivons les uns et les autres. Mais il n'y a aucun avertissement qui soit contenu dans la parole de Dieu que nous devions prendre, je dirais, à la légère. Parce qu'on se rend compte avec quelle rapidité il y a une dégénérescence, une décrépitude, et cela touche même dans le domaine, je dirais, religieux, et c'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, nous devons prendre en considération ce que Dieu nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous fatiguons pas de faire le bien, parce que s'il est vrai que dans le domaine de la corruption, ce que l'on sème, on va le récolter. Mais aussi dans le domaine du bien, il y a un jour une moisson. Et c'est la raison pour laquelle nous devons penser qu'un jour, nous allons nous trouver devant le Seigneur. Et il y aura une récompense. Et nous serons peut-être même surpris, étonnés, si nous sommes fidèles, obéissants à la parole de Dieu. Peut-être, sans grand exploit, sans faire des choses qui sont vraiment extraordinaires, qui attirent les regards. Mais nous pouvons marcher fidèlement avec Dieu Et la surprise sera grande, parce qu'à ce moment-là, eh bien peut-être nous aussi, nous poserons la question au Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons eu, malade? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Quand est-ce que nous t'avons vu dans telle situation? Et Jésus dira, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et la récompense, eh bien, elle sera là-haut, et ça sera pour nous un sujet de joie éternelle. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous supporter mutuellement, à travailler, à relever tous ceux qui peut-être passent par des moments difficiles, à nous aider de cette manière-là, et le Seigneur sera glorifié et la couronne nous sera réservée dans le ciel. Que Dieu vous bénisse.